Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la journaliste Christine Ockrent, l'essayiste Philippe Manière, le directeur de la Fondation pour l'innovation politique Dominique Régnier et le directeur général de Terra Nova Thierry Pêche. Au sommaire ce dimanche, la France de droite, sait-elle encore où elle habite? Et dans une Europe coupée en deux, le couple Merkel-Macron a-t-il encore la main? Peu glorieuse cette fin de saison politique du côté du parti Les Républicains. Peu glorieux était ce plan média qui avait conduit la numéro 2 de Laurent Wauquiez, la jupéiste et ancienne productrice de télé-réalité Virginie Calmel, à s'épancher dans les colonnes du Parisien, puis au journal de 20h, pour dénoncer la dérive identitaire de son patron, comme si elle la découvrait. Consternante était aussi cette anecdote circulant abondamment sur les réseaux sociaux pour raconter comment la vice-présidente limogée s'était brutalement vue interdire l'accès à son bureau et avait retrouvé ses affaires dans un carton à l'accueil du parti. Un déménagement. Sans doute était-ce à cela qu'avait ressemblé l'année politique, notamment à droite. Cette France de droite dont on se demandait où elle habitait désormais. Elle qui se montrait incapable pour l'heure de se rassembler derrière un leader incontestable. Entre la ligne identitaire d'un Wauquiez, la ligne plus tempérée d'une Valérie Pécresse, la ligne sociale d'un Xavier Bertrand, il y avait surtout le grand siphonnage du président Macron par Édouard Philippe interposé, qui, selon les études, satisfaisait plus de la moitié de la France de droite par ses choix économiques. Une dislocation des grands partis de droite qu'on retrouvait dans d'autres pays d'Europe. La CDU-CSU d'Angela Merkel, déchirée entre la ligne centriste de la chancelière et celle ultra-droitière des conservateurs bavarois. Les Tories britanniques également divisés entre partisans d'un Brexit dur ou doux et même la vieille Forza Italia de Berlusconi. Ces vieux partis de la droite européenne, désormais divisés et dépassés par la vague des populistes nationalistes conquérants, les Salvini, Orban et consorts, ces voix nouvelles du champ politique européen, fallait-il se résigner à ce qu'elles soient demain celles qu'on appellerait la droite?
Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est pas un problème disciplinaire. C'est un problème de ligne politique et de vision sur l'engagement même que Laurent Wauquiez avait pris devant moi. Il est venu me chercher pour faire un tandem parce qu'il a dit qu'il voulait rassembler et renouveler et que je cochais ces deux cases. Mais depuis, il a rompu le pacte de confiance entre nous en travaillant seul, aucun débat préalable à toutes ces prises de position successives.
Je suis fier d'être de droite et j'en ai assez que nous donnions le sentiment de nous excuser de ce que nous sommes.
Je ne vous dis pas que la gauche et la droite, cela ne signifie plus rien, que cela n'existe plus ou que c'est la même chose. Mais ces clivages, dans les moments historiques, sont-ils indépassables?
Dominique Régnier, l'affaire Calmel est-elle une énième crise pour la droite française ou l'ultime crise qui permet la grande clarification?
Non, c'est une crise très significative de la situation de la droite en France, mais vous le disiez aussi dans votre présentation de la droite en général. Sur la droite française, moi je fais l'hypothèse de départ que la société dans son ensemble se droitise. Il y a un processus, qu'on observe d'ailleurs dans d'autres démocraties, quasiment dans toutes, de droitisation. Si bien d'ailleurs que l'opposition, le clivage, se fait davantage entre une droite de gouvernement et une droite populiste ou une droite identitaire qu'entre une droite et une gauche. Et dans le cadre d'une droite qui se propage, la droite devient, pour le coup, diverse. Et donc la question de la capacité à faire la synthèse de ces droites, à proposer une voie équilibrée, est la question centrale. Et en même temps, l'exercice devient le plus difficile. Et manifestement, Laurent Wauquiez n'y parvient pas. Il ne parvient pas à être, pour le moment en tout cas, l'homme qui fait la synthèse entre ces Français attachés à l'entreprise, à la liberté d'entreprendre, qui critiquent la pression fiscale, ces Français qui sont très préoccupés par l'immigration, par l'islam et par une dimension plus identitaire, ou encore cette droite qui se considère comme l'héritière d'un État social qu'il retrouvait dans le gaullisme. Donc cette diversité, elle devient plus plus riche, je dirais, d'un certain point de vue, plus net, avec cette espèce de processus de propagation qui, moi, me paraît établi. Et là, il faudrait, au fond, une figure qui, au contraire, rassemble beaucoup et prenne beaucoup de temps et de peine à réconcilier, à fabriquer des consensus, des compromis. Et c'est tout le contraire à quoi nous assistons. C'est plutôt une manière de resserrer autour d'une minorité très endoctrinée, si je puis dire, une doctrine en réalité assez, on y reviendra peut-être, mais assez chancelante ou fragmentée quand on écoute les déclarations. Mais c'est à peu près le contraire de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour le chef de la droite de gouvernement.
Pour dire les choses clairement, Philippe Manière, est-ce qu'il y a vraiment chez Laurent Wauquiez aujourd'hui une tentation d'extrême droite, une tentation, on va l'appeler nationaliste, ou est-ce qu'il y a d'abord et avant tout un calcul rationnel froid ?
Moi, je pense que Laurent Wauquiez est quelqu'un de très intelligent et qui met son intelligence au service de la victoire électorale, ce qui d'ailleurs, dans une certaine mesure, est le mandat qu'il a reçu, et en tout cas qu'il s'est donné. Alors, vous le disiez, le phénomène de la droitisation du paysage politique et de la droitisation de la droite est un phénomène qui n'est pas strictement français. Il y a cependant, à mon avis, deux particularités qui expliquent la spécificité de ce qu'on est en train de vivre. Deux particularités françaises. La première, c'est que la droite française, sur beaucoup de sujets, a jamais été vraiment de droite. Si on accepte la période 86-88, la droite, par exemple, a toujours été étatiste, jacobine, plutôt favorable à la dépense publique, plutôt favorable à la fiscalité, en tout cas pas défavorable comme le sont les autres droites. Et donc, ça fait des particularités qui rendent le positionnement de la droite plus difficile par rapport à la gauche. Et puis, deuxième spécificité, qui est considérable, l'existence en France depuis 25-30 ans maintenant d'un parti très à droite et qui a prospéré au fil du temps et qui est maintenant très significatif sur l'échiquier politique. Alors ça pose deux problèmes de marché politique à Laurent Wauquiez. Si on présume, comme je le faisais tout à l'heure, qu'il cherche un positionnement politique rentable pour être élu, tout simplement, enfin pour que son parti gagne le pouvoir, on voit bien que les deux spécificités que je viens d'évoquer lui rendent les choses plus difficiles pour se distinguer de la gauche. Ça, c'est un problème éternel. Et évidemment, c'est encore plus difficile depuis que Macron et son en même tempisme ont pris le rôle qu'on sait dans l'échiquier politique. Puis le deuxième problème, c'est évidemment que, à la différence de la plupart des droites des grandes démocraties comparables, la droite française a du mal à aller vers sa propre droite parce qu'elle trouve de la concurrence, tout simplement. Non seulement ça pose un problème de marché politique, c'est-à-dire que comment être une droite plus à droite alors qu'il y a déjà le Front National, mais ça pose aussi un problème d'acceptabilité, un problème tout simplement de sémantique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays où vous pourriez dire pour que la France reste la France, évidemment il faudrait le dire pour que le Royaume-Uni reste le Royaume-Uni, pour que l'Allemagne reste l'Allemagne.
Préférence à ce tract
où ça ne serait pas très choquant.
Qui a provoqué le schisme avec Virginie Calmel.
Ça ne serait pas très choquant. Parce que, après tout, qu'est-ce qu'il y a de choquant à dire qu'on veut que son pays reste son pays ? En revanche, en France, compte tenu que c'est une sémantique très proche de celle qui est utilisée depuis 30 ans par le Front National, qui est différente, hein, comme le disait très justement, je crois, Alain Finkielkraut sur votre antenne, la France aux Français et pour que la France reste la France, ça n'est pas du tout la même chose. Mais évidemment, c'est proche, évidemment, c'est fait pour être proche et pour être perçu comme proche, parce que Laurent Wauquiez a besoin de faire venir à lui des électeurs du Front National s'il veut remporter cette partie politique. Au passage, je signale, je suis pas en train de dire que ce qu'il fait est bien, je signale qu'on nous a longtemps dit que si on voulait que le Front National disparaisse, soit marginalisé, soit réduit, il fallait évidemment que la droite récupère ses électeurs. Donc faut pas non plus demander le matin la disparition du Front National et reprocher l'après-midi à la droite d'aller essayer de chercher des électeurs du Front National. Sinon, évidemment, on se contredit soi-même.
La droite nationaliste, un créneau extrêmement fréquenté, titrait cette semaine Libération, jouant bien sûr sur le mot extrême et démontrant que le patron des Républicains cible un électorat déjà dragué, en effet, vous l'avez dit, Philippe Manière, par Marine Le Pen, par Marion Maréchal, par Nicolas Dupont-Aignan, avec, paraît-il, une peur obsessionnelle de la Benjamine Marion, qui ne veut plus s'appeler Le Pen, mais uniquement Maréchal, qui inaugurait d'ailleurs cette semaine à Lyon son école de sciences sociales, économiques et politiques. C'est vrai que sur ce créneau-là, il y a du monde aujourd'hui, Christine Ockrent.
Il y a du monde. Il est d'ailleurs intéressant de voir que Marion Maréchal, qui est tout sauf sotte, fait appel au man d'Émile Boutmy, le fondateur de la Fondation nationale des sciences politiques, et de Gramsci, qui était le grand intellectuel communiste italien.
Il est surréaliste, et d'ailleurs dans les médias cette semaine, d'entendre parler de la gramschiste Marion Maréchal.
Oui, mais à mon avis, c'est aussi lié avec Bella Ciao, dont tout le monde pense, à cause de ce formidable téléfilm espagnol, que c'est un chant espagnol, alors que c'était bien évidemment le chant révolutionnaire communiste italien, admirable d'ailleurs. Pour en revenir à la démarche de Marion Maréchal, c'est une démarche forte et intelligente, à long terme, elle n'est pas pressée, elle s'empresse de le répéter d'ailleurs, mais je voudrais revenir à cette idée que la droite française aujourd'hui est multiple. Elle l'a toujours été. Autre idée, elle doit siphonner les voix du Front National. C'est pas nouveau. C'est bien évidemment ce que Nicolas Sarkozy avait tenté de faire quand il a fait ce virage sur l'aile en 2009, si ma mémoire est bonne, avec un discours à Strasbourg où il a férocement droitisé son discours.
Vous allez brandir René Raymond dans 3 secondes.
Paix à son âme. Mais autrement dit, je crois que le problème de Laurent Wauquiez, c'est que par rapport à une droite française qui a toujours été diverse, mais qui cherche toujours le chef, qui a le culte du chef. Le problème de Laurent Wauquiez, c'est qu'il ne parvient pas à s'installer dans ce rôle. Sans doute parce que l'ombre portée de Nicolas Sarkozy reste trop forte. Il y avait d'ailleurs une image que j'ai trouvée très symbolique où l'on voyait Wauquiez sonnant à la porte du bureau de Sarkozy, rue de Miroménil, à Paris, si ma mémoire est bonne. Et il y avait dans le fait qu'il appuie sur la sonnette quelque chose d'extraordinairement symbolique. Et il me semble que la péripétie Virginie Calmels, elle est d'une extraordinaire banalité. D'abord, il s'agit d'une femme, n'est-ce pas ? Et donc, comment tolérer qu'une femme mette en cause le chef ? En plus, Madame Calmels a fait preuve aussi d'une immense naïveté à imaginer que un parti politique, quel qu'il soit, et a fortiori le parti de droite, pourrait s'accommoder d'une multiplicité de voix. Il sera d'ailleurs très intéressant de voir comment Valérie Pécresse va manœuvrer dans les mois qui viennent. Et puis, dernière remarque, Laurent Wauquiez a un calendrier électoral qui lui est extrêmement défavorable, parce qu'il y a les européennes l'année prochaine et que toujours les européennes ont divisé les partis traditionnels, qu'il s'agisse de la droite ou d'ailleurs de la gauche. Et puis, l'année d'après, les municipales. Et c'est pas terrible non plus, parce que on voit bien qu'il y a beaucoup de maires de centre-droit, de droite, qui trouvent que Emmanuel Macron et Édouard Philippe font tout à fait convenablement le boulot.
On y reviendra à cette France des territoires notamment. Mais Thierry Pech, au fond, est-ce que cette crise chez les Républicains ne conforte pas le diagnostic qui a toujours été celui d'Emmanuel Macron depuis le début, qui avait annoncé que ce serait d'abord la gauche qui exposerait en premier, puis la droite, en considérant, en effet, comme l'a dit Christine, que l'heure de vérité, elle arriverait pleinement avec les européennes, où s'imposerait de façon définitive un paysage politique français binaire, avec d'un côté les progressistes pro-européens et de l'autre les conservateurs eurosceptiques. C'est ça là vraiment qui se met en place, qui se précise, qui se confirme ?
Je crois que c'est... Oui, je pense qu'on va dans ce sens, on va dans cette direction, mais que cette situation ne sera pas stable, qu'elle sera transitoire. Cela dit, vous avez raison. Wauquiez est venu aider à la réalisation de la prophétie macronienne avec une efficacité absolument inouïe. Bon. Les droites françaises, elles ont toujours été hétérogènes. Et la droite n'a gagné que lorsqu'elle a trouvé des compromis entre ses familles et ses différentes composantes. Il y avait une composante légitimiste, puisqu'il faut faire parler René Raymond, et elle a disparu, René Raymond l'avait dit lui-même au tout début des années 2000, mais qui a été remplacée par la droite identitaire que Wauquiez essaye de draguer aujourd'hui. La composante libérale, vous citiez cette composante tout à l'heure en disant la droite n'a jamais été de droite, mais en fait, la composante libérale a toujours été un auxiliaire dans ces familles de droite. Elle n'a jamais été majoritaire, en réalité, sauf à un moment avec Giscard.
Oui. Bon, donc, il y a eu un moment où l'UDF faisait plus que le RPR.
Oui, mais ne vous racontez pas d'histoire, Philippe.
Je ne raconte rien, je rappelle un fait.
En réalité, les libéraux, dans l'histoire des droites françaises, ont été une composante relativement souvent minoritaire.
J'en suis d'accord,
Et puis, il y avait une composante bonapartiste, césarienne, qui a pu s'incarner dans le gaullisme d'une certaine façon, etc., et qui a été souvent caressée dans le sens du poil par les souverainistes, mais qui, au fond, n'est plus incarnée. Et Wauquiez, dans tout ça... Wauquiez, si vous voulez, c'est le Benoît Hamon de la droite. C'est le type qui arrive et qui dit « Bon, bah, maintenant, on va être fiers de ce qu'on est. On va plus chercher à faire des compromis et du rassemblement. On va se faire plaisir, d'une certaine façon. » Mais on devient vite minoritaire à ce jeu-là. Et c'est ce qui attend Wauquiez. C'est-à-dire que s'il ne trouve pas les moyens d'un compromis, eh bien, il restera ce qu'il est, c'est-à-dire pas grand-chose. La sociologie des Républicains aujourd'hui, quand vous regardez les enquêtes, ce qui ressort le plus massivement des enquêtes, c'est que c'est un parti de retraités. C'est un parti de vieilles gens. J'ai rien contre les vieilles gens, mais vous gagnez pas une élection avec un tout petit segment de la société française. On a fait une enquête sur le cannabis récemment, la consommation, production de cannabis, etc. Ce qui ressortait, c'est qu'il y avait beaucoup plus de gens libéraux et favorables à l'ouverture au Front National que chez les Républicains, parce qu'il y a plus de jeunes, tout simplement. En réalité, le terrain que cultive Wauquiez, c'est un terrain qui le promet à la défaite. J'avais dit, il tente un coup qui, au jeu d'échecs, est très risqué et que ne peuvent se permettre que les joueurs très habiles dont il ne fait manifestement pas partie, qui s'appelle le gambit. Le gambit, ça consiste à sacrifier une pièce importante pour gagner une partie. Il a sacrifié une pièce importante, mais il va perdre la partie.
Les études d'opinion, elles ne nous disent pas tout, en effet, aujourd'hui, sur ces segments de l'électorat de droite, Dominique Reynier. Alors, il semblerait que plus de 50% de la famille de droite ou de la France de droite aujourd'hui est convaincue, au fond, par les réformes que mène Emmanuel Macron. Mais ensuite, pour ce qu'il reste de la famille de droite, on ne sait pas qui va vers Wauquiez et qui va finalement nulle part. Qui est cette droite orpheline qui n'est ni Wauquiez ni Macron?
Oui. Enfin, en fait, il y a beaucoup de sujets sur lesquels... Indépendamment des erreurs faites jusqu'ici par Laurent Wauquiez, il y a beaucoup de sujets qui, en substance, ne sont pas traités. Sur ces sujets-là, Emmanuel Macron ne répond pas non plus toujours. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui restent sans réponse. On va voir ce qui se passe sur la figure de l'Europe, ce que ça devient. On ne sait pas très bien ce que devient l'État aujourd'hui, la réforme de l'État, la réduction de la pression fiscale. Est-ce que c'est quelque chose qui est abandonné et par Emmanuel Macron et par Laurent Wauquiez, qui a beaucoup fait dire que Emmanuel Macron menait une fiscalité, une politique fiscale pour les riches. Donc on a beaucoup entendu ça. Et donc sur toute une série de sujets, la question est de savoir comment on construit une doctrine dans laquelle pourrait se reconnaître cette droite française ou ces droites françaises. L'aspect qui me paraît important et qu'il faut souligner quand on a fait ce tableau, c'est que il est possible que Laurent Wauquiez compte, et ça peut compter, mais ça n'est pas raisonnable de ne compter que là-dessus, ni très sain, mais compte sur un processus qui maintenant est installé dans nos démocraties, qui relève de la destitution des élus, au fond. En 2012, lorsque Nicolas Sarkozy a été battu par François Hollande, c'était largement un processus de destitution. Les Français en avaient assez, voulaient choisir quelqu'un pour remplacer Nicolas Sarkozy, ils ont trouvé François Hollande, ils donnaient, dans les enquêtes que nous faisions à l'époque, ils donnaient toutes les qualités de président Nicolas Sarkozy, pas une seule à François Hollande, au moment où il le préférait comme président parce qu'il voulait en finir avec Nicolas Sarkozy. Ces processus de destitution sont désormais très inscrits dans nos démocraties, très puissants, parfois d'ailleurs très injustes, mais très violents. Et on peut imaginer que du côté de la droite partisane organisée, on compte là-dessus sur la destitution, le désir d'en finir avec Emmanuel Macron, pas aujourd'hui peut-être, mais dans 2, 3, 4 ans. Ça ne peut pas suffire, évidemment, et ça n'est pas une doctrine. Et donc, à la fois, la France me paraît, moi, être plus à droite que, sinon jamais, en tout cas, depuis, moi, je dirais, la libération. Je pense que la France n'a jamais été aussi à droite dans ses profondeurs. Bien sûr, la diversité de la droite, elle a toujours été soulignée. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas du tout celle d'une opposition qui pourrait se reconstruire et prendre le pouvoir pour gouverner à son tour le pays dans une espèce de routine familière. La situation, elle est un pays, la France, quand même très fragile, dans une Europe bouleversée, et où il est possible qu'au fond surgisse soudain un outsider. Je vois bien que Marion Maréchal n'a que 28 ans. Je suis sûr qu'elle dit qu'elle est patiente. Je pense qu'elle est impatiente et qu'elle se dit que son temps est venu maintenant et que le climat européen peut aussi devenir un climat national, et dès 2022, voire même un peu avant. Tout va très très vite en ce moment. Et donc là aussi, je trouve que de la part des acteurs politiques, peut-être d'ailleurs aussi Emmanuel Macron ne le ressent pas assez, de la part des acteurs politiques, prendre la mesure de la vitesse à laquelle sont en train de se transformer nos démocraties, où manifestement les électeurs, ils le montrent à chaque élection dans chaque pays européen, et je crains que ce soit le cas dans les prochains pays où l'on va voter, il y a un chamboule-tout qui fait que les stratégies classiques et les positionnements classiques doivent être quand même révisés à l'aune de cette accélération.
Philippe Manière, en réaction à ce qui vient d'être dit, mais aussi je vous repose la même question. Qui est aujourd'hui cette droite qui n'est ni Wauquiez ni Macron? Comment la définir? Comment la résumer?
Non, mais je pense que quand la question que vous posez, c'est à la droite, sait-elle encore où elle habite, est la bonne question. Et la réponse est que non, elle ne le sait pas. Alors, rétrospectivement,
on va pas faire trop d'entomologie, mais il y a quand même eu une énorme erreur qui a été faite par la droite, commise par la droite, me semble-t-il. C'est la réunion des deux familles de droite qui subsistaient un peu sérieusement, c'est-à-dire en gros l'héritage du RPR et l'héritage de l'UDF, en une UMP. À la différence de la gauche, la droite n'a jamais su faire cohabiter les chapelles. Le PS, alors maintenant, évidemment, on parle d'un temps qui est un peu révolu, mais enfin, rappelez-vous, pendant des dizaines d'années, le PS avait cette espèce de mécanisme extraordinaire avec les motions A, motion B, nuit des résolutions,
etc. La culture des courants.
Les courants, et puis on se retrouvait pour prendre le pouvoir, tout simplement, et ça marchait plutôt bien. La droite n'a jamais su faire ça. La droite, elle, avait besoin de deux familles qui s'unissaient quand elles arrivaient à le faire pour gagner, mais qui n'arrivaient pas à cohabiter dans la même organisation parce qu'effectivement, les déterminismes étaient très différents et puis qu'il y avait des querelles personnelles recuites. Mais rappelons-nous qu'en 1995, c'est une union des droites qui permet à la droite de gagner le pouvoir. Alors évidemment, ça donne à l'arrivée des choses un peu singulières, l'alliance de la carpe et du lapin. Vous aviez à la fois des gages donnés à Alain Madelin et à Philippe Séguin. Mais enfin, il y avait ce fonctionnement de deux partis de droite qui avaient un code génétique assez différent. Encore une fois, on ne va pas revenir à René Raymond, mais dans tout ça, il y a quelque chose de très juste. Il y avait deux familles de droite qui se sentaient de droite, mais ça n'était pas la même droite, mais qui pouvaient s'unir pour conquérir le pouvoir. Je crois que ces droites ont commis une erreur, c'était d'ailleurs encore une très mauvaise suggestion de Jacques Chirac, se réunissant dans une seule famille, où immédiatement les libéraux, pour faire simple, ont été marginalisés, ont été piétinés, parce que la tradition du RPR, c'est la tradition des Godillots, et que c'est pas la tradition où on laisse survivre beaucoup d'opposition à l'interne. On vient encore d'en avoir un témoignage. Et donc tout ça a fait une famille de droite, des droites au sens large, beaucoup moins puissante. Au moment où, pour des raisons cette fois exogènes, c'est-à-dire à la fois économiques et identitaires, c'est-à-dire à raison des migrations, apparaissait puissamment, d'abord marginalement, puis puissamment, un concurrent à droite. Et donc, au lieu d'avoir deux droites qui occupent assez largement l'espace, on aurait pu imaginer un RPR qui se droitise pour tenir compte des conséquences de ces phénomènes exogènes et qui devienne une droite un peu dure, et puis une droite plus centriste, plus européenne, plus tolérante, qui continue à avoir un potentiel électoral à L2. À partir du moment où on les met toutes les deux dans la même boîte, non seulement il n'y a plus vraiment de code génétique, on ne sait plus où on habite, encore une fois je rebondis sur le titre, mais en plus ça ouvre évidemment un espace à gauche et un espace à droite. Et l'espace à gauche c'est Macron et l'espace à droite c'est le Front National. Et donc je pense que la droite, les droites françaises, puisqu'il n'y a jamais eu une seule droite, ont commis une énorme erreur tactique et qu'aujourd'hui elles en payent le prix, sachant qu'encore une fois, ce à quoi on assiste très fortement depuis quelques années et encore plus depuis quelques mois, c'est le renforcement des raisons exogènes de dissensus au sein du corps électoral et au sein de la droite en particulier. Je pense spécialement en migration. Je voudrais juste pour un instant sur le fait que Macron s'est-il avisé de tout ça. Oui, bien sûr, il s'est avisé de tout ça. Je pense d'ailleurs que son relatif silence sur les questions migratoires est la réponse tactique à tout ça. C'est-à-dire que lui, il attend que la droite, pour gagner des points et pour se refaire vis-à-vis du Front National, soit de plus en plus outrancière pour manifester sans rien avoir à dire à quel point il est l'ami du genre humain. Donc ça le sert, je pense, ça. Macron n'a absolument pas besoin de se préoccuper de ça. Ça lui va très bien. La droite n'arrive pas à se reconstruire, mais pour essayer de se reconstruire, elle est obligée de devenir un peu outrancière, et ça le renforce dans son image d'homme équilibré, ni de droite ni de gauche, ouvert à tout et au reste.
Voilà qui nous amène déjà à notre deuxième thématique. Rapidement, vous avez le sentiment d'un silence du président Macron sur ces sujets-là, Christine Ockrent ?
Le silence du président, oui, mais pas de son ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb a un discours que véritablement, Laurent Wauquiez pourrait pratiquement signer. Quand Collomb parle d'une déferlante d'immigrés sur le sol français, d'abord c'est factuellement inexact, et ensuite c'est bien évidemment, on comprend pourquoi ce discours correspond à la stratégie globale de l'Élysée. Il est évident que Gérard Collomb ne fait pas ça tout seul, donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec Philippe. Je crois que certes Emmanuel Macron a la prudence tactique de ne pas s'avancer lui-même en première ligne, mais encore une fois, Gérard Collomb est son porte-voix sur ces questions.
Dernière question sur cette première partie, avant en effet de parler de ce qui se joue aujourd'hui au niveau européen. Thierry Pech, depuis le début de cette saison, dans ce studio, dans cette émission, on essaye de voir ce que va donner la fameuse année disruptive, l'année politique disruptive que nous avons vécue. Est-ce que vous avez le sentiment, à l'aube de nos vacances, que la droite s'est clarifiée plus vite que la gauche? Est-ce qu'on peut dire que l'argionamento est plus avancé à droite qu'à gauche?
Ah non, je trouve pas. Je pense que la droite telle que l'incarne Wauquiez souffre beaucoup d'impatience en réalité. Elle ferait mieux d'être beaucoup plus patiente, de faire moins de déchirures et d'éclats, et d'attendre le moment où le gouvernement aura un bilan à défendre et sera dans une position évidemment plus délicate. C'est pas du tout ce qui est fait. Je trouve que la droite de Wauquiez insulte l'avenir. Qu'elle insulte l'avenir. Et par ailleurs, je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il y a une espèce de droite qui a disparu depuis quelques années, qui a été incarnée autrefois par Philippe Séguin, qui avait une position évidemment assez défensive sur l'Europe, assez souverainiste, mais qui était aussi une droite assez sociale, qui était un peu l'héritière du gaullisme social.
Ça peut être celle de Xavier Bertrand, tapis dans l'ombre.
Cette famille de sensibilité... qui, à mon avis, pourrait raconter quelque chose à la France de droite, de différent de cette espèce de délire identitaire qui, à mon avis, n'a aucune articulation au réel et qui va se fracasser à la première occasion, que ce soit au niveau municipal, au niveau législatif, un jour que je ne souhaite pas. Je pense que là, il devrait... L'état de la question européenne est tel qu'il est possible que cette famille retrouve un espace et un champ. Et le souverainisme n'a peut-être pas besoin d'être hystérique pour se réaliser d'une autre façon. En tout cas, cette famille a disparu, et c'est étrange parce que elle avait, avec Philippe Séguin notamment, bon, il a disparu lui-même, ça, des représentants, je trouve, significatifs.
C'était la question que je posais tout à l'heure à Philippe Manière. Où est cette droite qui n'est pas Macron et qui n'est pas Wauquiez ?
Je pense qu'il ne faut pas complètement l'enterrer, en tout cas dans le projet tactique de Wauquiez. Vous avez vu cette semaine, il y a eu quand même quelques appels du pied par un certain nombre de lieutenants de Wauquiez sur le thème, on pourrait remonter le SMIC, etc., ce qui sont des choses qui sont, à mon avis, de très mauvaises idées du point de vue économique.
Et puis, il y a la personne de Jean-Léonetti qui va remplacer Virginie Kelman.
Mais c'est cette musique-là que la droite essaye de faire entendre quand elle parle elle-même, par exemple, d'augmentation du SMIC ou qu'elle dénonce les cadeaux faits aux riches, etc., etc. Donc, cette famille-là, elle a un peu disparu dans son incarnation, mais je crois que Wauquiez et ses amis n'ont pas oublié que c'est une composante utile de la droite dans la marche vers la conquête du pouvoir.
Oui, mais ce qui est dessous, enfin, si on reprend les catégories de René Raymond, c'est le dernier avatar possible d'une droite bonapartiste. Alors, elle a eu des visages désagréables, elle a eu aussi des visages historiques assez responsables, quand c'était le gaullisme. Cette case-là pourrait être occupée, et je ne pense pas que Wauquiez puisse l'occuper.
Et par Xavier Bertrand, vous pensez qu'il jouera un rôle important dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent ?
On verra. Moi, je rends un point à Xavier Bertrand volontiers, c'est qu'il a le sens des situations historiques.
Et vous semblez tous d'accord. On va maintenant passer à la lourde actualité européenne après l'Aquarius et ses nouveaux bateaux à la dérive. Ces morts cette semaine, plus de 200 en Méditerranée. Le sommet franco-allemand qui s'est tenu il y a quelques jours avant le Conseil européen de la semaine prochaine qui devrait donner la tendance des mois à venir. Et aujourd'hui à Bruxelles, un mini-sommet pour déminer, boycotté par le groupe de Visegrad, une Europe coupée en deux.
France Culture, l'esprit public. Émilie Aubry.
Ils souriaient l'un et l'autre lors de leur conférence de presse, mais les sourires, les visages, les gestes étaient contraints et la gravité sous-jacente palpable. Y avait-il eu vraiment cette semaine à Meseberg, lors du sommet Merkel-Macron, un accord historique entre la France et l'Allemagne ? Allait-on vraiment vers une refondation de la zone euro ? Il avait bien été question d'un budget entre les deux dirigeants, mais aucun chiffre précis n'avait été avancé, ce qui signifiait sans doute qu'Angela Merkel n'avait pas bougé d'un iota sur ces questions, n'ayant pas vraiment dit non à un budget de la zone euro du moment qu'il se chiffrait en dizaines de milliards, là où la France voulait raisonner en centaines. Quelle était cette feuille de route qui serait débattue lors du prochain Conseil européen de jeudi et vendredi ? Et après la désastreuse affaire Aquarius, le couple franco-allemand avait-il encore le pouvoir de répondre par plus d'Europe à la problématique migratoire, quand les pays qui voulaient revenir à des solutions nationales semblaient de plus en plus nombreux ? Revoir Schengen, Dublin, renforcer Frontex, on avait déjà entendu cela. Et cette musique ne valait pas grand-chose sans volonté commune et partagée et sans nouveaux moyens financiers conséquents. Ce sursaut-là aurait-il lieu ? Et au-delà, où en était le moteur de l'Europe, ce mythique couple franco-allemand quand Angela Merkel semblait atteinte, affaiblie, attaquée par l'aile droite de sa coalition et son ministre de l'Intérieur, qui lui avait cette semaine donné un ultimatum pour durcir la politique migratoire de l'Allemagne, sans quoi il fermerait les frontières allemandes aux réfugiés. Europe, le couple Merkel-Macron, avait-il encore la main ?
Jamais, depuis presque 10 ans qu'on en parle, un accord franco-allemand n'avait été trouvé sur le budget de la zone euro. Il reste beaucoup de travail, beaucoup de questions techniques, mais Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas les résoudre s'il n'y a pas, d'abord et avant tout, un accord politique, une vision commune de répondre aux défis contemporains. Et celle-ci, nous l'affirmons aujourd'hui, très fortement et très clairement, à travers ce travail. Et donc, en matière de sécurité, de défense et de migration, comme en matière économique et financière, nous répondons aux défis contemporains par plus de souveraineté européenne, par plus d'unité et de solidarité, et par une convergence de vues très forte entre nos deux pays et une volonté de convaincre nos partenaires d'avancer avec nous sur cette ligne.
Christine Ockrent, on a lu beaucoup de choses cette semaine sur un sommet franco-allemand un peu méthode Coué sur le thème Messie, on vous assure, il vient de se passer quelque chose d'historique, mais à y regarder de plus près, est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose ?
Il s'est passé quelque chose de tout à fait important. Et je suis frappée par toujours notre strabisme, c'est-à-dire qu'autant sur le plan domestique, et je suis entièrement d'accord avec Dominique Reynier, on accepte l'idée que tout s'accélère, tout se fracture, etc. Mais alors, dès qu'il s'agit de l'Europe, il faut considérer que c'est un univers où, en gros, tout doit être historique, n'est-ce pas ? Tout doit être historique, et où, forcément, chaque étape doit être marquée par un unanimisme, etc. Ce n'est jamais comme ça. C'est un processus dynamique qui a toujours fonctionné en saute-mouton, avec des pas de côté, etc. Ce qui s'est passé, me semble-t-il, dans la rencontre Merkel-Macron l'autre jour, c'est la cristallisation de rapports de force entre Paris et Berlin qui ont changé, puisque bien évidemment Angela Merkel est affaiblie. Il ne faut pas oublier que son partenaire CSU, le ministre de l'Intérieur bavarois, a des élections en Bavière à l'automne, et que bien évidemment il va continuer de durcir son discours sur l'immigration.
Sur fond de montée de l'AFD, le parti d'extrême droite.
Oui, et puis ça, enfin, la Bavière a toujours été beaucoup plus nationaliste au sens allemand du terme que le reste de l'Allemagne de l'Ouest. Il y a aussi une Merkel affaiblie économiquement, pas en termes de statistiques, mais attaquée par Donald Trump de façon beaucoup plus violente que les autres pays européens. Donc il me semble qu'Emmanuel Macron a su au contraire profiter en quelque sorte de ce mouvement-là pour faire quelques pas en avant vers les objectifs qui ont toujours été les siens depuis sa propre campagne électorale. C'est quand même un budget de la zone euro, même s'il n'est pas chiffré, et quand même cette idée qu'il faut sortir des ornières. Alors évidemment, c'est pas une révolution copernicienne, mais c'est mieux que rien. Et là où cela devient préoccupant, c'est qu'il faut voir maintenant ce que vont faire les Hollandais. Parce que M. Rutte, le premier ministre hollandais, qui a quelques problèmes avec sa propre coalition, donc il n'est pas non plus dans une forme éblouissante, mais il veut incarner, même si Mme Merkel fléchit un tout petit peu, cette espèce de rigorisme protestant qui consiste à dire « Ah mais attention, attention à l'argent, l'austérité, etc. etc. » Il y a quand même aussi une autre étape qui vient d'être franchie, c'est la Grèce. Alors là aussi, on peut en penser ce qu'on veut, mais les Européens,
alors,
bon
avec un allègement de la dette grecque,
voilà, sont néanmoins tombés d'accord pour sortir la Grèce de ce processus qui a été d'ailleurs d'une immense cruauté pour les classes moyennes en Grèce, pas pour les armateurs qui, de toute façon, en Grèce ne payent pas d'impôts, c'est dans leur constitution. Donc, il me semble encore une fois que dans cette complexité européenne, ne faisons pas preuve du simplisme dont, fort heureusement, nous nous abstenons quand il s'agit de discuter des affaires franco-françaises.
Alors, puisqu'on est sur le volet économique de cette Europe, on a vu aussi se mettre en place cette semaine des taxes sur les produits américains, c'est-à-dire que l'Europe se mette à son tour à riposter. Est-ce que c'est un signe d'une Europe qui sent qu'elle doit se souder au moins sur le plan économique, montrer les muscles avec ces taxes désormais ? Alors, sur quelques produits, le bourbon, les jeans, le beurre de cacahuète, je crois, mais est-ce qu'il se passe quand même quelque chose ? Qu'est-ce que ça signifie, Thierry Pech ?
Ah, l'espèce de veillée d'armes commerciale. Pour le moment,
c'est une veillée d'armes ?
Oui, Oui, parce que la guerre est loin d'être déclarée en réalité. Les exportations européennes d'aluminium et d'acier vers les États-Unis, c'est pas grand-chose. Donc l'enjeu n'est pas énorme. On est encore dans la manipulation des symboles. Alors on manipule des symboles dangereux, parce que le coup d'après, si c'est les automobiles, ça fera très mal à l'Allemagne. Et à ce moment-là, on entrera dans une affaire plus complexe et plus agressive. L'Europe se défend, elle avait annoncé la couleur. Pour le moment, ce ne sont pas des gestes irréversibles. Et donc je pense que c'est pas... Non, la grande fragilité du moment n'est pas là. La grande fragilité du moment, elle est dans le fait que le couple franco-allemand n'a jamais été aussi uni et faible. Ça, c'est le paradoxe. On a toujours pensé que l'Europe avançait si les Français et les Allemands savaient s'entendre. Là, ils savent s'entendre.
Enfin, on pensait ça à Paris.
Mais ça ne fera pas avancer grand-chose cette fois-ci, probablement. La chancelière est extrêmement affaiblie. Je crois que c'est ça le centre des préoccupations aujourd'hui. Seehofer a décidé de lui faire la peau pour sauver la sienne.
Son ministre de l'Intérieur.
Voilà. Donc ça, c'est très clair. Et il est tellement décidé à le faire... que il fait comme une expression que j'aime beaucoup, il fait pas de prisonnier, quoi. C'est-à-dire que non seulement il attaque sur l'immigration, mais sur le budget européen, il dit non aussi, pas d'union des transferts. C'est à peu près la position de l'AFD. C'est la position historique de l'AFD,
ce qu'il défend.
Et donc
et du Parti libéral.
Donc si vous voulez, il y a pas beaucoup d'espace. Alors Merkel va à Meseberg et avec Emmanuel Macron trouve une espèce de pacte où en gros, de la main droite, la France dit « D'accord, on va reconduire les déboutés dans le pays de première entrée. » En gros, on va appliquer Dublin. Bon, c'est ce que demande Seehofer. Très bien. C'est pas exactement ce que disait Macron la semaine dernière lorsqu'il disait « Dublin, ça va pas, faut faire autre chose, etc. » Donc on a du mal à saisir la ligne. Mais la contrepartie de tout ça, c'est des avancées que moi, je juge assez significatives, en effet, sur budget de la zone euro, mécanisme européen de stabilité qui va être transformé, achèvement de l'union bancaire, convergence fiscale, c'était annoncé depuis longtemps. Mais c'est... Donc le paquet est loin d'être vide. Mais le deal correspond à un moment historique de l'Europe qui est un moment de risque existentiel. Je veux dire, parce que ce qu'on donne à Seehofer, les Italiens vont le refuser. C'est exactement le contraire de ce qu'ils veulent. C'est exactement. Donc, à la fin de tout ça, si dans un de ces sommets dont on a le secret, à minuit et quart, un quart d'heure avant l'apocalypse, on arrive finalement à sauver l'Europe par des compromis inouïs, très bien. Mais ce qui est en jeu à la fin, si on n'y arrive pas, c'est qu'il n'y aura plus de liberté de circulation, probablement, parce que Schengen ne tiendra pas en Europe. Et à ce moment-là, j'attends les pays du groupe de Visegrad, parce qu'ils vont y perdre beaucoup de plumes. Bien sûr. On y perdra tous beaucoup. Donc, on est en train... Il y a un philosophe hongrois qui avait cette expression dans les années 30. On a pris une chambre à l'hôtel du bord de l'abîme, disait-il. J'ai peur qu'on ne soit pas loin du bord de l'abîme.
C'est vrai qu'au-delà de l'actualité, de ces sommets, de ces mini-sommets avant le Grand Conseil européen de la semaine prochaine, c'est à cela que vous avez le sentiment aussi d'avoir assisté ces derniers jours, Philippe Manière, en effet, un couple franco-allemand plus que jamais uni mais impuissant, face à une Europe, cette fois, vraiment coupée en deux et en effet peut-être au bord de disparaître.
Alors, l'union, elle est réelle entre la France et l'Allemagne. La faiblesse de la France et de l'Allemagne, elle est réelle. Donc là, je partage l'analyse de Thierry Pech. Je pense malgré tout que cette union, elle est réelle, mais un peu construite. C'est-à-dire que, faut pas se raconter d'histoire, les Allemands, et les Néerlandais aussi, Christine a raison de le rappeler, et un certain nombre d'autres de nos partenaires européens, continuent à nous regarder comme des gens qui font pas le boulot. La France est, à part l'Espagne, le pays qui a les dépenses publiques les plus élevées. Pardon, ça c'est record de toute l'Europe, les dépenses publiques les plus élevées. Mais après l'Espagne, le déficit le plus élevé, alors qu'on est quand même sorti de la crise depuis un moment. Enfin voilà, vu de la plupart des autres pays d'Europe, au nord, mais pas seulement, parce qu'au sud, il y a des gens qui ont fait des efforts, la France est très très lente à revenir dans le jeu. Or, ce que nous demandons, ce sont des progrès qui consistent à mettre en commun nos destins économiques et financiers. Et ça, il faut bien reconnaître que vous êtes beaucoup plus audible pour demander ça quand vous avez fait le ménage chez vous. Alors, nous avons commencé le ménage, mais très tardivement, et ça ne va pas très vite, vu du point de vue des pays qui l'ont fait depuis longtemps et qui l'ont fait de manière plus convaincante que nous. Donc, l'Allemagne, en particulier, me semble-t-il, parce qu'elle a besoin d'un accord avec la France, aussi à raison de la faiblesse politique de la chancelière, est assez ouverte à donner des gages en échange de quelques gages qu'on lui donne, nous. Mais enfin, ça ne crée pas du tout la dynamique un peu lyrique, romantique et substantiel qu'on avait lors de sommets beaucoup plus importants par le passé. Je suis d'accord avec Christine sur le fait qu'il ne faut pas attendre chaque fois des progrès considérables. Il ne faut pas non plus tomber de l'autre côté du cheval et dire c'est formidable, ils se sont embrassés, donc tout va bien.
Mais surtout que la vraie question n'est-elle pas de savoir si les Européens aujourd'hui attendent réellement que le couple franco-allemand continue d'être le moteur de l'Europe.
Est-ce qu'il y a encore cette attente? Il faut se sortir de la tête le fait qu'il suffit que les Français et les Allemands se mettent d'accord pour que ça suive, parce que nous sommes maintenant très nombreux. Cet accord est à peu près nécessaire pour que l'Europe avance, mais il est aujourd'hui loin d'être suffisant. Et vous évoquiez tout à l'heure les pays de Visegrad, et enfin, plus généralement les pays d'Europe centrale et orientale. Ce sont des pays qui divergent fortement de la vision européenne depuis quelques années.
Alors, juste le rappeler pour ceux qui ne savent pas, le groupe de Visegrad, donc c'est cet accord il y a quelques mois entre la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie.
Et ces pays-là disent, vous ne nous comprenez pas, vous nous maltraitez. Vous ne comprenez pas la menace russe qui est sérieuse, mais dont on parle très marginalement en dehors de nos pays, l'Allemagne un peu, les autres presque pas. Les pays baltes et les pays d'Europe centrale et orientale sont très concernés par ça. Vous ne nous comprenez pas sur la pression migratoire, c'est chez nous qu'arrive une grande partie des migrants. C'était plus vrai avant que ça l'est aujourd'hui, mais malgré tout, c'est vrai que les migrants qui viennent de la Méditerranée, par définition, ils vont pas entrer en Irlande, ils rentrent plutôt par ces voies-là, par ces pays-là. Et pour finir, vous ne nous comprenez pas dans notre hantise de nous voir contrôler, brider dans notre identité nationale qui a été tellement maltraitée pendant la période d'occupation, de quasi-occupation soviétique, que nous sommes, sur ce sujet-là, très sensible. Et très souvent, ce qui nous paraît nous relativement normal, c'est-à-dire une directive qui s'impose à tous les États membres, est perçu localement comme quelque chose d'une injonction presque aussi insupportable que quand Moscou dictait sa volonté. Il faut bien comprendre la psychologie de ces gens-là. J'ajoute que quand on peut, on saisit la première occasion de manifester notre mauvais goût. Je l'ai appris récemment par un ami polonais qui en était bouleversé et qui m'a dit que ça s'est pas passé, c'était pas passé inaperçu en Pologne. Il y a peu de temps, Juncker, donc le patron de l'Europe en quelque sorte, a inauguré à Trèves, alors c'est avec Trèves, c'est à 30 km de Luxembourg, donc c'est chez lui, mais il a inauguré une statue de Marx pour fêter le 200e anniversaire de la naissance de Marx, qui avait été financée par les Chinois. En faisant un discours, évidemment, il avait quelques précautions oratoires, c'est bien le moins, mais enfin, en gros, on chantait les mérites de Marx. Mettez-vous à la
pour
place
un
de quelqu'un.
Bourgeois, c'est quand même
c'est remarquable. Hein. Donc mettez-vous à la place d'un Tchèque, d'un Slovaque, d'un Polonais. Pour eux, Marx est sans doute un grand penseur, mais c'est surtout et d'abord celui dont se sont inspirés ceux qui les ont si maltraités pendant si longtemps. Donc c'est juste insupportable. Et donc cette incompréhension de l'esprit de ces pays-là, à mon avis, est aujourd'hui la plus grande menace pour l'Union. Après que les Français et les Allemands se mettent d'accord, c'est mieux que s'ils ne se mettaient pas d'accord. Qu'on fasse des petits progrès, c'est mieux que si on n'en faisait pas. Mais je crois effectivement que la question existentielle pour l'Europe, ça n'est pas ça. La question existentielle, c'est avoir une vision commune. Et aujourd'hui, à cause de la menace russe, à cause de la menace migratoire, entre guillemets, en tout cas de la perception, et à cause des maladresses de l'Union, on est loin d'avoir une vision commune. Et je sens, moi, ces pays-là commencer à dériver. Et je pense que ça n'est réellement pas dans notre intérêt, ni géopolitique, ni évidemment au regard de la construction européenne.
Vous dites cette menace migratoire, en tout cas ce sujet migratoire dont Emmanuel Macron a parlé, notamment avec beaucoup de force, hein, jeudi en Bretagne, avec un discours très fort pour dénoncer la lèpre qui monte en Europe. Je le cite, le nationalisme qui renaît, la frontière fermée que certains proposent et ceux qui trahissent l'asile. Tout en fustigeant aussi, et je le cite de nouveau, les donneurs de leçons qui m'expliquent qu'il faut accueillir tout le monde sans voir les fractures de la société française. On est en plein dans le « en même temps macronien ». Est-ce que là, il n'est pas schizophrénique, Dominique Reynier, le « en même temps macronien » sur ces sujets-là?
C'est un discours que j'ai trouvé à la fois maladroit et probablement faux dans l'analyse qu'il fait de la situation. Ouais. Maladroit parce que c'est vraiment pas le moment de jeter de l'huile sur le feu dans nos relations avec l'Italie, comme avec les pays du groupe de Visegrad, comme avec l'Autriche, comme avec maintenant une majorité en réalité de pays de l'Union européenne. Je rappelle que la Slovénie vient elle aussi de se placer entre les mains des populistes et cela va toucher bientôt les pays scandinaves. Donc ça n'est plus une position qu'on peut avoir comme cela. On peut s'en préoccuper, mais surtout ne pas le dire et pas en ces termes. Et je pense que c'est une erreur d'appréciation parce que le paradoxe, il est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui en Europe, en tout cas moi je défendais cette thèse, il n'y a pas de retour du nationalisme. Ça n'est pas vrai du tout. Les Européens sont partout convaincus, à part quelques minorités dans chacun des pays, je veux dire, mais sont partout convaincus qu'ils s'en sortiront beaucoup moins bien si tout ceci explose plutôt qu'ensemble. Personne ne vous dit le contraire en Europe aujourd'hui.
Donc vous ne redoutez pas aujourd'hui l'explosion de l'Europe.
Par contre, ce qui se passe, Si, bien sûr, pour toutes les raisons qui ont déjà été données. Mais ce qui se passe, par contre, c'est que les Européens demandent, et c'est une demande très légitime, qu'une puissance publique dimensionnée à l'échelle du monde soit en mesure de répondre à leurs attentes et à leurs injonctions. Aujourd'hui, on demande aux Européens de ne pas compter sur la puissance publique nationale parce que c'est nationaliste ou parce qu'elle n'est pas compétente, mais de ne pas compter sur une puissance publique européenne parce que nous ne sommes pas évidemment des fédéralistes ou parce que nous n'avons pas de système démocratique tout à fait accompli. On ne peut pas laisser les Européens, seuls, ensemble de peuples dans le monde d'aujourd'hui globalisé, sans avoir ce référent de puissance publique.
J'aimerais comprendre. Donc vous ne croyez pas au retour des nationalismes en Europe, mais vous croyez quand même à un danger réel de l'explosion de l'Europe.
C'est-à-dire que les nationalismes et les extrémismes vont finir par arriver. Ce que les Européens ne veulent pas, mais qu'ils feront cependant, parce qu'ils refuseront à la fin de se retrouver tout seuls comme petite bonne femme, petit bonhomme dans la globalisation, sans aucun soutien. Ce qu'ils veulent, c'est une puissance publique organisée par l'Europe, redimensionnée par l'Europe, mais se retrouver seuls dans le monde, ils ne le veulent pas. Et à force de dire qu'ils ont tort de demander une puissance publique, en particulier pour la régulation de l'immigration, le contrôle des frontières, une visibilité de l'efficacité publique de l'Europe pour défendre sa communauté, à force de voir les Européens se fâcher entre eux sur des points de vue qui, en réalité, ne sont pas très différents, eh bien, là, nous aurons l'idée qui va se développer, qui, malheureusement, est déjà très engagée, que tant pis, de guerre lasse, tant pis, on va revenir à un échelon national, on va se rallier à ce discours qu'on ne veut pas en premier choix. C'est tout à fait clair, ça. Et donc, ne faisons pas des Européens ce qu'ils ne sont pas, en les accusant de ce qu'ils ne sont pas encore, qu'ils ont été effectivement, qu'ils peuvent d'ailleurs devenir en effet si on ne répond pas à leurs attentes.
Thierry Pêche, sur ce raisonnement complexe de Dominique Rémy.
Orban a fait un discours très intéressant récemment, en hommage à Helmut Kohl. Pour l'anniversaire de la mort ou de la naissance de Helmut Kohl, je ne me souviens plus.
La mort.
Et il disait très clairement une partie de ce que vient de dire Dominique. C'est-à-dire, l'Europe, on y tient, on y est bien, ça nous rapporte, bon, mais nos intérêts nationaux, d'abord. Et d'ailleurs, si on est attaché à l'Europe, c'est pour autant qu'elle est capable de servir nos intérêts nationaux. L'idée nationale et l'idée européenne, dans l'esprit d'Orban, sont complémentaires et pas opposées. La question qu'on a devant nous, c'est: est-ce qu'on veut une Europe réduite à l'union douanière, au fonds structurel de cohésion à destination de ces pays, ou est-ce qu'on veut aller plus loin? Et c'est ça la mère de toutes les batailles. C'est là que les chemins se séparent. Et là, révérence gardée à l'égard de l'histoire du passé, vous avez raison de le rappeler, Philippe, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Voilà. Est-ce qu'on veut être des démocraties libérales ensemble ou pas? C'est pas une question neutre à l'égard même de l'interprétation qu'on fait de notre passé européen. Bon. Je pense qu'Orban ne veut pas de ça. Kaczynski ne veut pas de ça. Les démocraties autoritaires, illibérales qui fleurissent en Europe de l'Est sont des démocraties qui sont à peu près contre l'état de droit.
Mais qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on arrête avec eux?
Alors, je pense qu'il y a un moment, il y a un moment où la question va être avec ou sans eux. Une union douanière pour eux, très bien, qu'ils y restent.
Et peut-être moins de subventions.
Et du coup, moins de subventions. Mais nous, on a envie de faire autre chose. Avec ceux qui ont envie, hein. Bon, il faudra, on se comptera.
On sera pas nombreux.
On sera peut-être pas nombreux, en effet. Mais
on serait qui, justement, précisément? Essayons de faire cette liste-là. On serait qui, Thierry Pêche? On serait peu nombreux, mais avec qui?
C'est ça la question.
Et vous ne savez, aujourd'hui, on ne sait pas y répondre. Mais
attendez, c'est assez largement un projet franco-français, c'est un peu ennuyeux pour
moi.
Non,
attendez. La démocratie libérale, si c'est un projet franco-français.
Non. Mais l'idée d'aller plus loin. L'Europe puissance, en tout cas, transcender les acquis et aller plus loin.
Même sans aller plus loin, est-ce qu'on défend cette idée de démocratie libérale et d'état de droit jusqu'au bout?
Bien sûr.
Ah oui? Bien sûr.
Article avec qui 7.
En effet, si on n'est pas nombreux, ça veut dire qu'on est vraiment très très mal.
Non, mais c'est une. Il y a aussi un aspect de transaction avec les Européens eux-mêmes. Orban, c'est une chose, les Hongrois, ça en est une autre. Mmh. Et les Hongrois demandent des frontières protégées. Commençons par donner ça. Il faut commencer par donner quelque chose qui n'est objectivement pas négociable pour un peuple qui est aujourd'hui dans la globalisation.
Christine Ockrent.
Je crois que ce qui est très clair, c'est qu'au fond, tous les Européens, et je suis d'accord avec Thierry, souhaite une Union européenne, et là c'est un terme du président français, une Europe qui les protège. Et il n'est pas question, quand vous regardez les sondages d'Eurostat, vous constatez, contrairement à ce que répandent les médias français, comme d'habitude, vous avez une adhésion au projet européen qui augmente. C'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on peut entendre, mais c'est un fait. À condition que cette Europe protège, et qu'elle les protège économiquement. et économie, c'est la liberté de circulation, c'est le grand marché et toute la prospérité apportée par l'Union européenne d'abord à ces pays d'Europe centrale dont la mémoire historique, et je rejoins absolument Philippe, est toujours alourdie. Ils estiment que nous autres, à l'Ouest, on ne leur a pas assez, on ne les a pas assez récompensés, on ne les a pas assez guéris de les avoir abandonnés, ce qui est un fait sous le joug communiste. Il y a une autre dimension que l'on sous-estime, c'est leur problème démographique. Ce sont des pays dont la population disparaît.
Tous,
quand vous regardez la Bulgarie et la Hongrie, par exemple, il y a une perte démographique immense. Il n'y a pas d'immigrés dans ces pays. C'est absurde. En Pologne, oui, il y a des Ukrainiens.
Ce vieillissement, il existe aussi en Allemagne, en Espagne,
en
Italie.
Non, mais je parle pas du vieillissement. Ouais. Je parle véritablement d'abord d'une émigration, d'un exode, parce qu'ils vont chercher du boulot ailleurs, d'où Brexit, puisqu'ils sont allés massivement en Grande-Bretagne. Et vous avez aussi cette idée que leur identité culturelle est en train de disparaître.
Alors même qu'elle était déjà, là, parce que ce sont des langues très peu parlées, enfin, déjà cette identité, dès le départ, il la chérissait parce qu'elle était...
Oui, mais enfin, ça, le hongrois, c'est comme le finlandais,
C'est ça que je veux dire, mais si en plus la dénatalité fait que leur identité culturelle s'érode, on comprend cette espèce de sentiment d'amertume et de dessaisissement.
Mais tout cela pour dire que l'Europe reste un projet commun, mais avec des versions différentes. Et il est très intéressant de voir comment Bruxelles a quand même brandi l'article 7 du règlement européen contre la Pologne, qui mène une réforme de son système judiciaire qui véritablement foule aux pieds les fameuses valeurs auxquelles nous sommes quand même tous attachés. Il faut arrêter de ricaner sur ces valeurs. On est quand même très fiers qu'elles existent. On a mis quelques siècles à les construire. On ne va pas les laisser s'abîmer à ce point. Donc, il y a quand même un moment où ces pays qui bénéficient très largement, à commencer par la Pologne, mais aussi la Hongrie, des subventions européennes, il faut quand même à un moment donné qu'on en fasse un outil, je ne dis pas une arme, mais un outil de pression ou de négociation avec eux.
Consensus sur ces valeurs, dites-vous, Christine Ockrent, mais après une semaine où on a entendu les propos de Matteo Salvini sur les Roms, et encore je ne cite pas ce qui s'est passé aux États-Unis avec les enfants mexicains et les positions de Trump, est-ce qu'il y a encore, car finalement c'est tout l'enjeu aujourd'hui, une volonté de traiter ensemble au niveau européen les questions migratoires, ou est-ce qu'aujourd'hui se dessine une majorité de pays qui disent non, nous voulons notre souveraineté sur ces sujet-là, et même un Schengen renforcé, nous n'y croyons plus.
En tout cas, il y a aujourd'hui une difficulté qui n'existait pas il y a quelque temps, qui est on n'arrive maintenant plus à discuter ensemble sur ces sujets-là, puisque il y a l'appel au boycott des pays de Visegrad du prochain sommet sur l'immigration. Donc si on... je ne sais pas d'ailleurs si l'Italie ne va pas les rejoindre, puisque Matteo Salvini s'est considéré insulté par la France. Donc on est en train de ne plus arriver à en discuter, ce qui est vraiment... Alors là, le degré, pas zéro, mais on est très bas dans le champ des possibles. Il y a évidemment une demande de ce côté-là. Moi, je redis que et les gouvernements et plus encore les peuples européens ont le sentiment de leur faiblesse en réalité. C'est une association de faibles, tout cela. Il n'y a pas de force dans tout ça. Personne n'est fort. Tout le monde est très faible et de plus en plus faible dans ce monde. Et donc la demande de coagulation, de coopération est réelle. Il faut l'ordonner. Simplement, il y a des conséquences qui n'ont pas été discutées. Je dis juste ceci pour l'ajouter. Pour essayer d'ajouter un mot, je dirais, du côté des pays de Visegrad, ils disent aussi, vous nous avez demandé de fabriquer des démocraties libérales, nous en sommes très heureux, nous l'avons fait. Vous nous dites maintenant qu'il faut que nous construisions des sociétés multiculturelles et nous ne voulons pas et ça ne fait pas partie du contrat. Nous avons quelque chose là qu'il faudra discuter.
Thierry Pêche et puis Philippe Magnin.
Ils ne veulent même pas des démocraties libérales. Quand Kaczynski dit « je suis contre l'impossibilisme légal », c'est l'expression qu'il utilise.
Moi je dis
il sort du territoire commun des démocraties libérales. C'est même pas la question des sociétés multiculturelles, là. Hein. Même pas. J'attire votre attention sur le fait que les flux migratoires à destination de ces pays en dehors de l'Ukraine pour la Pologne, aujourd'hui, ils sont très, très bas, voire taris. Donc, en réalité, le problème est devenu le problème numéro 1 de l'agenda politique au moment où il est le problème numéro 12 de l'agenda des réalités.
C'est assez fréquent. Il faut le temps qu'une demande du peuple se traduise en demande politique.
D'accord. Ce que je veux dire, c'est que la question migratoire aujourd'hui est juste un aliment instrumental de la vie politique nationale pour Orban ou Kaczynski. Ça n'est plus une réalité. Mais il se nourrit de cette... Il revient... Attends, pardon, mais Orban revient régulièrement à Budapest des sommets européens en disant « Je vous ai sauvé de la déferlante ». C'est faux, mais ça le nourrit politiquement. C'est son carburant.
J'aimerais qu'on termine, parce qu'il y a un vrai clivage des deux parties, des deux côtés de cette table. Clairement, entre ceux qui disent « Ces pays de Visegrad, on les considère, on les respecte, on ne les exclut pas », et ce que dit Thierry Pache aussi, sur un moment aussi, il faut défendre nos valeurs, un mot un peu passe-partout, mais en tout cas, on défend notre conception de la démocratie libérale.
Il ne faut pas non plus faire croire qu'il parle de quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, il est vrai que les flux directs entrant dans ces pays se sont arrêtés, mais précisément, l'Union prétend, et c'est ça qu'il refuse, faire une allocation des gens qui arrivent. Ce qui est d'ailleurs assez juste, puisqu'il y a un ou deux pays par lesquels tous les immigrants arrivent pour des raisons purement géographiques, parfaitement triviales, et l'Union dit, par solidarité, on va donner des quotas en quelque sorte d'immigrants. Et c'est ça.
Il faut quand même rappeler, que la France de François Hollande et de Manuel Valls les avait refusés.
Non, j'en suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ce que refusent les Hongrois et les Polonais, ça n'est pas quelque chose qui est complètement inventé. C'est quelque chose qui est désiré par l'Union pour les meilleures raisons du monde, qui consiste à leur dire soyez gentils de prendre des immigrés.
C'est tellement inventé que ceux qu'on envoie là-bas, ils reviennent en courant. Personne parmi les migrants ne va aller en Pologne ou en Hongrie. Donc tout ça, c'est du carburant politique.
Non, c'est très excessif.
La réalité...
C'est pas juste, Thierry. Les Autrichiens ont accueilli autant...
Les Autrichiens, oui.
On n'a pas parlé des Autrichiens.
Oui, mais moi, je vous en parle, parce qu'ils ont une majorité de droite et populiste.
Et ils auront la présidence de l'Union européenne.
Oui, certainement. Mais ils ont eu la même réaction politique, et Kurz, et sur la ligne de Visegrad, c'est évident. Et donc, il ne faut pas...
Et les Italiens n'en sont pas loin.
Il ne faut pas dire que... Il y a Orban, il y a Kaczynski. Kaczynski, d'ailleurs, s'en va. Il y a Orban et il y a Kaczynski. Il y a les Polonais, il y a les Hongrois. Et ces problèmes-là touchent des pays qui ont fait leur part. Ils n'ont pas été remerciés ni aidés, je pense, aux Autrichiens. Et il ne faut pas laisser penser que l'Allemagne sera dans le jeu. Regardez Zior, vous l'avez dit, Ziofer, il veut fermer les frontières de l'Allemagne lui-même.
Le ministre de l'Intérieur.
Des élections en Allemagne nous amèneront à un triomphe d'une droite dure et de l'AFD et nous aurons même en Allemagne ce processus-là.
Non, le mot de la fin, Christine Ockrent. Courage et détermination. Thierry Pech.
Non, je n'ai rien à ajouter. On a besoin de beaucoup plus de temps, en réalité.
Nous en reparlerons. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre, d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Céline Leclerc, qui a préparé avec moi, comme toujours, cette émission. À Luc Jean Reynaud, qui l'a réalisée à la technique aujourd'hui. Emmanuel Morse d'Incan, André Yanos et Raphaël Rasson. La semaine prochaine, mais oui, déjà, dernière émission de la saison exceptionnelle en public avec Ibrahim Malouf, l'auteur de ce générique qui nous réjouit les oreilles depuis septembre et en ce moment même. Tout de suite, on va rejoindre Alain Kruger pour On ne parle pas la bouche pleine. Alain Kruger qui déjeune aujourd'hui avec le comédien Guillaume Gallienne et le goût particulier de la cuisine bourgeoise à la française. Je sens déjà l'odeur du gigot du dimanche.
La cuisine au beurre.
La cuisine au beurre, Christine. À la semaine prochaine.